France Info, les informés, Aurélien Accard.
Bonsoir à tous dans les informés, ce soir du tic-tac et du TikTok. Le tic-tac, c'est la course incertaine encore entre la vaccination et le variant Delta, prête à nous faire un nouveau cadrage, débordement, comme l'on dit à Matignon. Et TikTok, c'est le nom du réseau social sur lequel Emmanuel Macron veut convaincre les plus jeunes en répondant à leurs questions. Pas de chanson ni de chorégraphie, mais le président marche tout de même sur un fil, alors que l'opposition au pass sanitaire prend de l'ampleur en France. On parlera également de la situation en Martinique, où le vaccin est rejeté par une grande partie de la population et où la quatrième vague de l'épidémie se profile, elle s'annonce terrible. Enfin, Gérald Darmanin, qui veut donner la priorité, non pas à droite pour une fois, mais à la lutte contre les violences conjugales dans les commissariats. Voilà le programme et on en débat avec nos informés ce soir. Ils sont trois. Bonsoir Jeannick Halimi.
Bonsoir.
Rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Bonsoir Michel Taube.
Bonsoir.
Fondateur du site d'information Opinion Internationale. Et bonsoir Sylvain Courage.
Bonsoir.
Rédacteur en chef à l'Obs. Bienvenue à tous. Allez, c'est parti pour une heure de débat sur France Info dans les informés. Et si le bout du tunnel, c'était pour cet automne? C'est ce que l'on déduit, en tout cas des propos d'Alain Fischer ce matin, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, pour qui il est possible d'atteindre l'immunité collective en France avec 90% de vaccinés ou d'immunisés au début de l'automne. Si l'on tient le rythme actuel, alors c'est pas gagné, hein. On va en parler dans les informés, mais est-ce que finalement... cette fois, enfin, après plus d'un an et demi maintenant de Covid, on approche, Michel Taube, d'un vrai retour à la normale.
Non, je pense qu'il serait bien présomptueux de faire des plans sur la comète. Le virus est vraiment très peu connu, il développe des formes particulières. Honnêtement, moi je serais beaucoup plus prudent que cela, même si Alain Fischer est un très très grand professeur de médecine dont je salue le parcours et que tout le monde, reconnaît. Mais c'est vrai qu'il est vrai que tout de même, la clé... pour vivre avec le virus ou pour s'en débarrasser définitivement, c'est évidemment la vaccination. Et l'objectif, c'est d'atteindre l'immunité collective. Et malheureusement, le 12 juillet, lorsque le président de la République a secoué les Français, mais également aujourd'hui, le 2 août, nous sommes toujours en retard. Nous sommes toujours insuffisamment vaccinés. Mmh. Et manifestement, on en reparlera tout à l'heure, j'imagine, avec TikTok, le rythme des vaccinations freine de nouveau. Donc, c'est vrai que l'objectif affiché par Alain Fischer, mais également par le président de la République, qui disait que tous les adultes seront vaccinés avant la fin de l'été, on est encore loin du compte. Ouais, c'est le dernier kilomètre qui est le plus long.
On est pour l'instant à presque 52% des Français de plus de 12 ans entièrement vaccinés, 62% de primo-vaccinés. Jeannick Halimi, est-ce qu'on est tout de même maintenant sur les bons rails ou est-ce qu'on a pris trop de retard?
On est sur les bons rails, mais on peut sortir des rails malheureusement. En tout cas, le virus peut en sortir et du coup, une autre direction peut s'ouvrir. Je vais être plus claire, c'est que d'abord, effectivement, je trouve que l'objectif assuré, affirmé, comme cela par le professeur Fischer, que bien évidemment je respecte, est peut-être un peu trop optimiste, mais pourquoi pas. Mais même si on arrive à ce pourcentage-là, n'oublions pas et regardons ce qui se passe à l'étranger, dans des pays où le taux de vaccination est beaucoup plus avancé que le nôtre. Je veux penser à la Chine ou à Israël, où la Chine recommence dans certains cas à reconfiner Israël, à prescrire une troisième dose pour certaines catégories de la population. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, si on ne vaccine pas assez vite, on le sait très bien, et le professeur Fischer le sait ô combien beaucoup mieux que moi et que nous, c'est que de nouveaux variants à la faveur ou à la défaveur de ces non-vaccinés peuvent tout à fait se développer et générer une nouvelle dynamique, malheureusement, de contamination dont on ne connaît pas les qualités et les gravités. Donc, vaccinons-nous et vaccinons-nous le plus vite possible et j'espère ainsi que M. Fischer aura raison, mais rien n'est moins sûr.
Sylvain Courage, ce chiffre de 90%, on comprend bien que peut-être il faudra recommencer la course avec une troisième dose dans quelques semaines, comme le font les Allemands, ils l'annoncent aujourd'hui.
Oui, c'est possible et c'est la communication aussi des labos hein, qui mettent au point des formules pour être plus efficaces contre les variants. Sans doute qu'on sera appelé périodiquement à se revacciner contre des coronavirus, puisque voilà, c'est toute une nouvelle famille de virus et de maladies qui est apparue. Mais le pli sera peut-être pris. C'est-à-dire que là où le professeur Fischer a raison, c'est qu'il faut être volontariste pour que tout le monde comprenne aussi la méthode. Et donc, on aurait dit au printemps dernier que la France serait à 63% de première injection et 52% de vaccination complète au début du mois d'août, on n'y aurait pas cru. Donc, probablement, les 90% sont atteignables, à condition que le mouvement de résistance, qui aussi se fait jour,
on va en parler,
n'empêche pas de l'obtenir.
Il va falloir donc convaincre, Michel Taube.
Autre élément qui m'incite à la prudence, c'est que la solution n'est pas qu'en France. Imaginons que les Français soient très largement vaccinés, mais il y a aussi les pays voisins, il y a nos amis africains, il y a les personnes qui viennent du monde entier. Donc la problématique n'est pas que nationale, elle est vraiment internationale. Et il peut y avoir des retours de nouvelles formes de variants. Le variant Delta, il vient d'Inde. C'est parce que des Indiens sont venus en Europe. Donc imaginons que l'Europe se vaccine très vite, mais qu'on ne fasse pas des efforts suffisants sur l'Afrique ou sur l'Asie, et ben ça peut revenir sous d'autres formes. Donc vraiment, je pense qu'il faut rester prudent et tout en incitant tous nos concitoyens à se vacciner, parce que c'est quand même, malheureusement, avec quand même le respect des gestes barrières, se laver les mains, porter le masque à mon avis plus souvent, ça fait partie de ce vivre avec le Covid qui nous permettrait de persévérer malgré la crise.
Vous parlez tout à l'heure du dernier kilomètre qui est le plus difficile à franchir, Michel Taube. On va voir justement comment Emmanuel Macron essaye de s'adresser notamment aux jeunes qui doutent encore de la vaccination. On va en parler dans un instant. Il a choisi TikTok pour cela, et vous avez choisi France Info. Il est 20h10, Emmanuel Langlois pour le Fil Info.
France Info.
France Info, les informés. Aurélien Accard.
Les informés de France Info ce soir, Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs, Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien, et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Emmanuel Macron qui a donc répondu aujourd'hui à sa façon aux manifestations anti-pass sanitaire du week-end, des manifestations qui ont réuni dans toute la France plus de 200 000 manifestants. Réponse du président à sa façon avec une vidéo postée sur le réseau social TikTok, ce réseau prisé des ados et des jeunes adultes. D'habitude, on y partage plutôt des chansons ou des chorégraphies. Par exemple, il y a quelques semaines, c'était celle-là qui avait la corde. Ah, il faut imaginer les bras qui partent un petit peu dans tous les sens. Il y en a plein des vidéos comme ça. Aujourd'hui, autre ambiance depuis le fort de Brégançon avec DJ Emmanuel Macron dans un décor beaucoup plus sobre.
Je sais que pourtant beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur. Beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. Alors j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les-moi. Et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible.
Voilà, Emmanuel Macron qui parle donc de vaccination et qui promet de répondre aux questions dans quelques jours, peut-être donc une série de vidéos à venir sur TikTok. Sylvain Courage, est-ce que la démarche du président de la République est la bonne ? Est-ce qu'il peut convaincre en se mettant comme ça à portée de smartphone des plus jeunes ?
C'est un bon moyen de s'adresser à cette partie de la population qui, pour lui, est très stratégique. Hein. On sait qu'il a plutôt la cote auprès des jeunes, d'après les sondages. Et par ailleurs, c'est une population qui est dans la difficulté avec ce pass sanitaire. Donc il ne faudrait surtout pas qu'elle bascule dans le rejet, dans le refus du pass sanitaire et de la vaccination, parce que là, ça aurait des conséquences politiques et sanitaires déplorables. Donc il les soigne et il adopte un code de communication. Il a l'air très juvénile dans cette vidéo, avec un t-shirt qui va bien. Et donc on ne lui donnerait vraiment pas l'âge qu'il a, presque. Donc,
il est obligé de mettre le drapeau bleu, blanc, rouge derrière.
Il a d'ailleurs oublié le drapeau européen. Je trouve ça assez choquant qu'ils aient oublié de mettre le drapeau européen.
C'est pas vraiment le cadre habituel des communications.
Je suis désolé, il y a toujours le drapeau européen, le drapeau français devant quand le président de la République s'exprime.
Michel Taube, son raisonnement est sans doute le suivant. Beaucoup des rumeurs, des fake news que le président dénonce sur le vaccin notamment, circulent d'abord sur les réseaux sociaux. C'est donc sur ces mêmes réseaux qu'il faut répondre.
Alors, tous les réseaux sont bons à exploiter pour convaincre nos concitoyens de se vacciner. C'est ça, j'ai envie de dire, l'essentiel. Mais ayant dit cela, je pense que le président de la République fait ce choix-là parce que malheureusement, les jeunes ne sont pas assez nombreux à aller se vacciner. Et que je pense qu'il anticipe, il tente d'anticiper sur ce manque d'entraînement des jeunes pour y aller. Ensuite, je ne comprends pas que le 12 juillet, il annonce une loi quand même coercitive, qui a été, à mon avis, beaucoup à tort, mais considérée comme liberticide, donc contraignante, qui impose un pass sanitaire, qui oblige certaines catégories de population, principalement les soignants, à se vacciner, et qu'après, ils fassent de la pédagogie. Enfin, est-ce que ça, en s'adressant aux jeunes, en disant « posez-moi des questions, je vais tenter de vous y répondre de la façon la plus claire et la plus concise ». Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire l'inverse ? C'est commencer par la pédagogie, et après, si la pédagogie ne marche pas, passer à la contrainte. Troisième élément, je pense que c'est du bonapartisme 2.0. C'est-à-dire, c'est moi, je, président de la République, posez-moi vos questions, je suis votre médecin en chef, je suis celui qui sait tout, et je vais vous répondre. Enfin, franchement, ça fait juvénile, mais enfin, est-ce que ça ne fait pas un peu ridicule aussi ?
Les réseaux sociaux et Bonaparte, c'est quand même pas le même...
Non, mais c'est dans le sens où c'est très 5e République de faire tout remonter au chef de l'État, d'imaginer que le chef de l'État va être capable, lui, par sa parole quasiment infuse, à expliquer à des jeunes et les convaincre d'aller se vacciner après avoir eu un échange sur Instagram ou TikTok avec eux, franchement, c'est quand même un peu hallucinant.
Jeannine Calimi, est-ce qu'il fallait le tenter quand même
il fallait le tenter. Et là où je rejoins Michel Taube, c'est qu'effectivement, on aurait pu s'attendre à ce que d'autres leviers de communication, y compris à travers les réseaux sociaux, mais je veux parler par exemple des sportifs ou des stars, des vedettes de la chanson, du rap, parce que chez moi, des gens qui parlent aux jeunes et auraient pu se mobiliser soit spontanément, soit poussés plus ou moins par le ministère de la Santé, le ministère de la Jeunesse ou le ministère de la Culture. Là, je suis d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Michel Taube, c'est lorsqu'il dit que c'est une sorte de césarisme ou bonapartisme dépassé, éculé, inutile. Non, parce que ce qui se passe aujourd'hui est quand même foncièrement politique. Le pass sanitaire avec tout ce qu'on voit comme contestation, c'est foncièrement politique. Le vaccin est un objet politique, même s'il n'est pas encore ou qu'il n'est pas de toute façon obligatoire. Tout ce qui se passe aujourd'hui est un objet foncièrement politique, et que le président de la République prenne la parole, moi je trouve, non seulement ça ne me choque pas, mais je trouve que c'est totalement opportun. Maintenant, comme le disait Sylvain, courage, tout à fait, s'adresser aux jeunes n'est pas complètement anodin. D'abord, effectivement, ils ne sont pas encore largement vaccinés, donc d'un point de vue sanitaire, il faut le faire. Et puis, les jeunes sont touchés, c'est une cible électorale évidente, ils sont principalement, sinon touchés, en tout cas concernés par le pass sanitaire. Il y a un autre élément qui est très important, qu'il ne faut pas oublier, et que le gouvernement regarde comme le lait sur le feu, c'est la rentrée scolaire, et notamment la rentrée universitaire. Alors, pour le moment, il n'y a pas de pass sanitaire obligatoire à l'entrée des universités, mais il ne faudrait pas que la jeunesse s'échauffe à la rentrée, parce que dysfonctionnement, parce que problème de présentiel, parce que problème de cours, etc. etc. Donc, la jeunesse n'est pas... est une population qui est extrêmement stratégique par tous les bouts qu'on la prenne, c'est-à-dire sanitaire, électoral, bien sûr, et politique.
Sylvain Courage, cette réponse du président de la République intervient après trois week-ends de manifestations des anti-pass sanitaires. Il y avait plus de 200 000 personnes dans toute la France ce week-end. On est presque au niveau, en termes de nombre de personnes du premier week-end des Gilets jaunes. Est-ce qu'il faut y voir une réponse, le fait en tout cas qu'Emmanuel Macron surveille ça comme le lait sur le feu?
Oui, bien sûr, il y a un risque pour lui d'une contagion, parce que finalement c'est un exutoire facile pour toutes les oppositions. D'abord, on est contre le pass sanitaire, on veut plus de liberté, ça permet de réunir à la fois une contestation qui vient de la droite de la droite, de la gauche, et puis de nulle part aussi, et de réunir tout le monde dans la rue de manière assez simple. Et c'est vrai que le risque, c'est que le mouvement s'amplifie et finisse par poser un problème politique majeur au gouvernement qui a lancé la campagne de vaccination, mais il y a une sorte d'effet retour aujourd'hui de la résistance au pass sanitaire. Et les chiffres que vous citiez en pleine saison estivale sont effectivement élevés. Donc on peut imaginer qu'à la rentrée, si le sujet, et le sujet sera toujours sur la table, on puisse assister à des mobilisations encore beaucoup plus importantes.
Et on va voir justement si le gouvernement ne devrait peut-être pas envisager de modifier déjà ce pass sanitaire, en tout cas à la marge et à la demande des restaurateurs. On va en parler dans un instant, 20h20 d'abord, le Fil Info sur France Info avec Emmanuel Langlois.
France Info.
France Info, les informés. Aurélien Accard.
Avec ce soir Michel Taube du site Opinion International, Jannick Halimi du Parisien et Sylvain Courage de l'Obs. Le pass sanitaire élargi entre en vigueur la semaine prochaine. Semaine cruciale d'ailleurs pour ce dispositif qui sera nécessaire pour faire tout un tas d'activités supplémentaires. Accéder au bar, au restaurant, prendre un train, un car ou un avion sur une longue distance. Et même dans certains centres commerciaux, si les préfets en décident ainsi. Il reste un obstacle juridique, c'est l'avis du Conseil constitutionnel jeudi. Et puis il y a ensuite tout un tas de signaux qui nous indiquent que quand même, ça ne va peut-être pas être si simple cette affaire. Par exemple, les restaurateurs et le patron de l'UMI en Ile-de-France, représentant des hôteliers et des restaurateurs, qui demandent à ce que les terrasses échappent au pass sanitaire. Son argument, il n'y en aura pas dans la plupart des centres commerciaux en intérieur. Alors pourquoi sur les terrasses en plein air? Réponse ce matin sur France Info d'Alain Griset, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.
Qu'ici ou là, il y ait des restaurateurs qui puissent contester telle ou telle mesure peut-être, mais les restaurateurs sont les premiers concernés et intéressés par ce pass sanitaire. Quand ils sont venus nous voir pendant un an, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? Ils nous ont demandé de réouvrir en disant « nous voulons travailler ». La condition pour qu'ils travaillent, c'est qu'ils se passent. Sinon, nous allons être contraints de les refermer. Donc, nous sommes dans le même bateau, restaurateurs et le gouvernement. Il faut absolument que chacun comprenne que le pass sanitaire, c'est pour eux la liberté de travailler.
Le ministre chargé des petites et moyennes entreprises, les PME, Alain Griset sur France Info ce matin. Est-ce qu'il a raison de répondre comme ça, ou on peut le voir peut-être même comme une forme de petit chantage, ce que disent les restaurateurs sur les terrasses et le pass sanitaire? Ça peut quand même s'entendre, Jannick Halimi?
Les deux arguments des uns des autres peuvent s'entendre. On a l'impression que c'est un langage de sourds. Alors, je ne vais pas traduire ce que dit Monsieur Griset. On comprend qu'il risque d'avoir un risque plus grand lorsqu'on n'a pas le pass sanitaire sur les terrasses, qu'on boit, qu'on mange, qu'on est les uns à côté des autres, et qu'il vaut mieux ça que le confinement total et la fermeture des magasins et des restaurants. Et les patrons de bars disent deux choses. Ils disent d'abord, dehors, il n'y a pas de raison. C'est moins contaminant, il y a rarement eu de cluster, si au moins il y a les gestes barrières. Et deuxièmement, c'est un côté, regarde mon voisin, pourquoi est-ce qu'on ferme, pourquoi on ne demande pas dans certains centres commerciaux les passes sanitaires et qu'on le demande aux terrasses. Donc c'est un peu un langage de sourds, et les deux, je dis malheureusement, ont raison et tort à la fois. Le Sénat avait, lorsqu'il a examiné la loi la semaine dernière, supprimé l'obligation du pass sanitaire en terrasse. Apparemment, on verra ce que dira le Conseil constitutionnel, qui jugera en droit, en opportunité et en proportionnalité. Donc, il faut attendre jusqu'au 5 août.
Ce sera donc jeudi, Michel Taube.
Non, mais le pass sanitaire est devenu comme une sorte de totem, quoi. C'est devenu une question presque absolue, quoi. Et c'est vrai que, par exemple, pour les restaurants, moi dans mon journal, j'ai défendu très tôt la réouverture des restaurants en multipliant justement des solutions alternatives qui permettent, avec des séparations en plexiglas entre les clients et plein d'autres mesures, l'aération. Il y avait plein d'autres solutions pour permettre de rouvrir plus rapidement. Donc je trouve que quelque part, les restaurants jouent peut-être pas trop le jeu. Il y a des restaurants où des tests ont déjà été faits, où il y a une bonne fluidité, où le contrôle du pass sanitaire se fait rapidement. Rappelons que dans la loi telle qu'elle a été adoptée par le Parlement, là je crois que c'était la demande des sénateurs, il n'y a plus d'obligation de contrôler l'identité des personnes.
Tout à fait.
C'est que le pass sanitaire, donc franchement, c'est juste une feuille de papier à montrer ou une appli. Donc on en a a fait, et notamment les adversaires du pass sanitaire, en défilant depuis 3 semaines et en faisant une sorte de captation de discours sur des enjeux liberticides, on en a fait une question presque totémique. Non, je pense qu'il faut raison garder. Le Conseil constitutionnel va certainement, enfin, j'imagine, pourrait à la marge retoquer l'une ou l'autre des dispositions, mais je serais très étonné qu'ils ne valident pas la loi. Ensuite, ça va se mettre en place. Et encore une fois, comme le disait le ministre, et là-dessus, je suis vraiment d'accord, le ministre, qui est l'ancien patron de la plus grande organisation professionnelle d'artisans et de commerçants, donc il connaît bien son sujet, je pense que tout ça, c'est fait pour éviter un nouveau confinement. Mmh. Donc, encore une fois, laissons les choses se mettre en place. Après, il y a quand même des vrais problèmes. Par exemple, est-ce que tous les... puisqu'on parle des restaurants, est-ce que tous les serveurs dans les restaurants vont pouvoir se vacciner dans les délais parce que certains ont du mal à...
Parce que les délais ont été courts et puis il y a eu...
Exactement.
Les créneaux ont été pris d'assaut le lendemain.
Exactement.
De...
Donc il y a certainement, comme toujours, sous la Macronie, des grands problèmes d'intendance et de mise en œuvre des mesures qui font que souvent elles sont à la fin contre-productives. Mais la réalité, c'est qu'en France, comme dans beaucoup d'autres pays, le pass sanitaire est un outil de santé publique au service de la lutte contre la pandémie.
Sylvain Courage, les restaurateurs, ils ont raison d'appuyer sur cette terrasse et l'ambiguïté qu'il peut y avoir, et en tout cas le traitement qui n'est pas le même entre les centres commerciaux et les terrasses qui effectivement sont en plein air.
Bah, de leur point de vue, ils tentent un petit coup de pression juste avant la décision du Conseil constitutionnel, donc c'est pas mal joué parce que ça peut fournir une petite soupape pour les législateurs. Je pense qu'effectivement, ils devraient réfléchir avant de protester contre le pass sanitaire, parce que c'est la garantie pour eux de rester ouvert dans les mois qui viennent. Et il ne faut pas qu'ils jettent le bébé avec l'eau du bain. Mmh. Mais ils profitent du climat de contestation du pass sanitaire, d'effectivement de cette polarisation autour de ces dispositions, pour faire une petite tentative un peu corporatiste et élargir un peu leur domaine pour agir. Quoi.
Mais c'est un peu effectivement compliqué toute cette question de l'arbitrage, hein, entre le pass sanitaire, ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. On va en parler dans la deuxième partie des informés dans quelques instants avec Sylvain Courage, ce soir rédacteur en chef à l'Obs, Zanik Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien, et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. La météo arrive dans un instant.
France Info, les informés, Aurélien Accard.
La deuxième partie des informés de France Info, et ce soir nous sommes avec Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Zanik Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien, et Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs. On parlait avant la pause de la nécessité pour le gouvernement de convaincre et de faire face aux manifestations plus nombreuses de semaine en semaine contre le pass sanitaire. On va parler maintenant du cas de la Martinique, qui résume bien les enjeux pour les deux camps d'ailleurs. Le Premier ministre Jean Castex juge la situation là-bas dramatique. Les 3 premiers patients atteints du Covid ont d'ailleurs été évacués samedi en avion vers Paris, et les hôpitaux là-bas commencent à déborder sous l'action d'une 4e vague, du variant Delta, mais pas que. Et un chiffre qui alerte, à peine 20% de la population martiniquaise qui est vaccinée. Beaucoup de gens refusent le vaccin. Il y a même un centre de vaccination à Fort-de-France qui a été incendié hier. La défiance est très largement partagé, le virus parfois même nié dans sa réalité. Il y a des reportages à lire d'ailleurs, Zanik Halimi, aujourd'hui dans Le Parisien,
absolument.
Un très bon reportage sur place, et également dans Libération, où voilà, on raconte la lassitude des médecins qui souvent d'ailleurs de façon anonyme se disent très inquiets. Ils n'en peuvent plus de se voir répondre par un tel que le pouvoir exagère, que les médecins exagèrent, parce qu'ils l'ont lu sur WhatsApp, en mode l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours et qui n'a pas vu le vaccin. C'est inquiétant ce qui se passe quand même en Martinique, Zanik Halimi.
Oui, c'est inquiétant parce que, comme vous le disiez très rapidement, globalement, le taux de vaccination est très bas. Et surtout, la population la plus touchée là-bas et l'échelle démographique, pour des raisons économiques tout simplement, est très en faveur des personnes âgées. Et donc, la population population là-bas, globalement, est plus sensible et plus fragile que sur le continent. Donc c'est effectivement extrêmement, extrêmement grave. Et puis, il n'y a qu'à entendre les médecins et déjà les hôpitaux qui sont obligés de transférer des malades. Et il semblerait, parce que la question se pose et ça fait l'objet d'un reportage très intéressant, effectivement, dans nos colonnes, vous le rappeliez, qu'il y ait une méfiance religieuse dans ces territoires qui fait plus confiance dans des propos tenus par des personnes, des gourous qui se réclament de la Vierge Marie, des éléments un peu religieux, catholiques, et très scientosceptique. Donc une population qui est sceptique, une population plus à risque qu'en France, pardonnez-moi, que sur le continent que les DOM-TOM m'excusent. Et aussi, faut le rappeler tout de même, une logistique sanitaire hors Covid, quand même plus fragile et moins puissante, moins développée que sur le continent, je dis bien sur le continent, tout ça explique le problème dans lequel se débattent la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe.
Michel Taube. Il y a une crise très grave aux Antilles depuis 10-20 ans, c'est la crise du chlordécone.
Ouais, c'est ce qui explique aussi le contexte.
Qui explique, qui est donc cette pollution environnementale liée à l'utilisation abusive de pesticides pendant des années et des années, alors que c'était interdit par la communauté internationale. Et ça provoquer une sorte de décrochage entre la population antillaise et, on va dire, les discours des autorités, notamment sanitaires. Mais moi, je voudrais quand même dire une chose, parce que je sais que France Info est très écoutée dans les Antilles. Il y a un grand monsieur qui est décédé il y a 3 jours, qui s'appelle Jacob de Varieux, qui était le patron, qui était l'inspirateur et l'homme clé du groupe Kassav. C'est un monument de la chanson française qui est décédé. Il est décédé parce qu'il y a un mois, il a contracté le Covid et qu'ensuite, il a eu des complications médicales liées à sa santé personnelle. Mais c'est le Covid, au départ, qui a commencé à l'emporter. Et donc, vraiment, vraiment, il faut que les Antillais comprennent, nos amis Antillais comprennent que le Covid, ce n'est pas une invention. Le Covid, il tue. Le Covid tue. Ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, malheureusement, c'est que s'il n'y a pas une forte accélération des vaccinations, il va y avoir beaucoup de décès. Et donc même d'immenses personnalités qui est aimée par tous les Antillais, Jacob de Varieux, en a été emporté. Donc il faut vraiment se secouer parce que véritablement, c'est une question de vie et de mort pour des centaines ou des milliers de personnes. Voilà ce que je voulais dire.
Et vous parlez de la chlordécone, on précise que 90% de la population martiniquaise a été contaminée par cet insecticide, qu'effectivement l'État ne les a pas protégés et qu'on peut peut-être comprendre qu'ils aient une certaine réserve, en tout cas envers l'État, Sylvain Courage. Mais sur cette question du vaccin, on voit bien la conséquence, 20% à peine de vaccinés et des hôpitaux qui là-bas déjà débordent.
Oui, la campagne de vaccination a démarré plus tard pour des raisons logistiques et donc ce retard plus tous les facteurs qui viennent d'être évoqués, politiques et effectivement de défiance. Hein. Se vacciner, c'est un peu s'inoculer l'État dans l'épaule. Hein. Enfin, il faut faire confiance à la puissance qui vous dit que ça va vous protéger contre la maladie. Et si vous n'avez pas confiance, globalement, en cette puissance, eh bien, le vaccin apparaît comme une menace au lieu d'être un remède. Et c'est exactement la situation. Et les autorités françaises sont sans doute très désemparées vis-à-vis de ce qui se passe aux Antilles, parce que ça va nécessiter des moyens techniques, des transferts de malades, peut-être acheminer sur place des lits de réanimation, des respirateurs, des équipes médicales. Bref, on est parti pour quelque chose de lourd.
Et on va continuer à parler de la Martinique dans un instant. Michel Taube et Zanik Halimi, je vais vous donner la parole, mais d'abord à 20h40, on fait un point complet sur l'actualité de ce lundi 2 août avec le Fil Info, Emmanuel Langlois.
France Info.
France Info, les informés. Aurélien Accard.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, propose de nouvelles mesures pour mieux lutter contre les violences conjugales. 102 femmes et 23 hommes sont morts l'an dernier, tués par leur conjoint ou ex-conjoint. Un chiffre qui baisse légèrement, mais un niveau de violence et des dysfonctionnements qui restent préoccupants. Gérald Darmanin veut d'abord, et c'est peut-être pas si idiot de commencer, même si ça paraît un peu symbolique, commencer par dire que les plaintes concernant les violences conjugales doivent être traitées devant les autres en priorité. Yannick Halimi, c'est un symbole qu'il envoie au sein même des commissariats.
Bien sûr, c'est un symbole et plus qu'un symbole, un signal, une incitation très forte qu'il envoie à ses troupes, j'allais dire Gérald Darmanin, dans nos colonnes ce matin, permettez-moi de le rappeler.
C'est pour ça que je vous donnais la parole.
Aurélien, voilà, voilà. Et au-delà de ça, il prévoit aussi une augmentation des personnels de police qui seront affectés à cette tâche-là. Je ne sais pas si on va le développer, si on aura le temps. En tout cas, ce qui semble manquer, dans tout ce qu'a décrit le ministre de l'Intérieur, c'est ce que pourrait apporter comme complément le garde des Sceaux. Oui. J'entendais un peu tous les intervenants sur cette question-là, que ce soit les associations de défense des femmes, etc. C'est qu'il manque de procureurs pour suivre les dossiers et que là aussi, comme dans beaucoup de domaines, il y a un maillon manquant dans la procédure pénale du suivi des plaintes déposées dans les commissariats, du suivi par la police, par la justice.
Gérald Darmanin qui veut 5000 officiers de police judiciaire en plus, mais effectivement la question des procureurs a tout de suite été soulignée par les magistrats et les associations. Sylvain Courage, est-ce qu'on progresse quand même sur ces questions de la lutte contre les violences conjugales quand on voit l'interview et les annonces ce matin du ministre de l'Intérieur?
C'est assez concret, puisque effectivement toute déposition sera suivie d'une plainte ou d'une transmission aussi au parquet qui peut agir au nom de la puissance publique. À partir de là, quand même, c'est une étape essentielle, parce que pendant des années, des décennies, peut-être des siècles, ces affaires et ces violences ont été sous-estimées,
cachées,
mises sous le tapis.
Des drames privés, c'était considéré...
Voilà, donc il y avait une tolérance, en fait, intolérable pour cette violence. Et là, on voit bien que, du point de vue de la police, du point de vue de l'ordre public, il n'y a plus de tolérance. Ensuite, effectivement, il faut que les plaintes soient suivies, parce qu'on a eu des cas tragiques de femmes qui ont été assassinées par leur mari ou leur concubin, alors qu'elles avaient déjà déposé des plaintes. Donc il y a un problème d'efficacité ensuite dans la condamnation et le suivi de ces hommes violents.
Et malheureusement, on sait déjà qu'elles ne seront pas suivies, parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour poursuivre ces plaintes. Je crains même l'effet contraire. Bien sûr que c'est un progrès de s'engager à instruire toutes les plaintes et de ne pas simplement les prendre comme des mains courantes. Mais là, je pense qu'il faut... On n'a pas assez pris exemple sur l'Espagne. En Espagne, c'est extraordinaire. Ça fait 20 ans qu'ils s'y sont attelés. Il y a 160 juridictions spécifiques. Il y a la police judiciaire à 15 jours pour instruire un dossier. Et les magistrats ont 3 mois pour rendre une décision de justice. Aujourd'hui, en Espagne, l'année dernière en Espagne, il y a eu 40 000 ordonnances de protection, c'est-à-dire d'éloignement des auteurs de violences sur leur conjointe, on en a 10 fois moins en France. Donc si vous voulez, c'est bien de prendre des mesures, et ce n'est pas la première fois que le gouvernement qui a fait de l'égalité hommes-femmes d'un côté, des violences et la lutte contre les violences faites aux femmes, la grande cause du quinquennat Macron. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils font de cette question une priorité. Mais la réalité, c'est que les moyens ne suivent pas et ne sont pas à la hauteur de cette réalité considérable qui était effectivement occultée. On en est loin et je pense que les mesures ne sont pas encore suffisantes. Et j'espère que ce sera un des enjeux de la prochaine élection présidentielle, parce que c'est malheureusement un vrai problème dans notre société.
Même si l'un des enseignements du rapport qui a été rendu aujourd'hui, c'est que quand même, les femmes aujourd'hui posent plus volontiers, j'allais dire, plaintes quand elles sont victimes de violences, qui n'était pas encore le cas il y a quelques années.
C'est la première étape, et de toute façon, comme on le disait tout à l'heure, c'était même pas considéré comme pénalement parlant. C'est considéré, les violences faites à son conjoint et à sa conjointe en général, comme un drame d'ordre privé. Donc la police et la puissance publique n'avaient pas son mot à dire dans ce domaine, même s'il y avait une main courante et un dépôt de plainte. Alors moi, j'ai cru entendre aussi une avocate, Maître Dreyfus, qui regrettait le fait qu'il n'y ait plus de main courante, me semble-t-il. Donc ça pose, au profit du dépôt de plainte, apparemment ça pose un problème pour les associations qui sont concernées par ces gens-là. Je pense que, pour rebondir sur ce que disait Michel Taube, le prochain quinquennat, à mon avis, là, avec tous les aspects sécuritaires dont on parle depuis 5 ans, que ce soit la sécurité intérieure, la sécurité terroriste ou les sécurités plus spécifiques, montrent quand même une défaillance par manque de moyens, essentiellement. Une défaillance de la justice et de la procédure pénale qui suit l'action de police ou des policiers de justice.
Et donc, parfois un manque de communication aussi entre la police et la justice, et ça donne des drames terribles. On l'a vu il y a quelques mois, quelques semaines encore. Merci à vous les informés. Jannick Halimi du Parisien, service politique. La une du journal, c'est quoi demain?
Et ben, ce sont les premières heures des petits pandas.
Les premières heures des petits pandas qui viennent donc
Pandipanda
d'arriver. Sylvain Courage, l'Obs, cette
la
semaine,
vie
parle
sous
de quoi
escorte, comment les violences justement suscitent des demandes de plus en plus nombreuses de protection rapprochée et les problèmes que ça pose de moyens et aussi de psychologie.
Et je remercie également Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Merci à vous les informés. Bonne soirée.